Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Chapitre 5, verset... À partir du verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. L'apôtre Paul aborde une zone d'ombre. Parmi ces Thessaloniciens, leur manque dans le domaine de la sanctification, au niveau de la pureté, de la séparation d'avec le péché. Ce n'étaient pas les champions de la sainteté, manifestement. Il faut dire qu'on est dans un contexte grec, et c'était particulièrement difficile pour eux qui avaient cet arrière-plan. Et puis, ce n'était pas sur la société qu'ils allaient prendre des repères. On a le même problème chez les Corinthiens. Paul cible le manque de sainteté sur plusieurs domaines. Dans le domaine sexuel, il parle d'immoralité, de débauche sur le plan sexuel. Vous avez le mot porneia qui est là, qui évoque l'adultère, qui évoque toutes les relations sexuelles hors mariage, ou en dehors du mariage, ou avant le mariage, et toutes sortes de déviances sexuelles. Il est question aussi de convoitises passionnées. Ça nous permet de parler des addictions ou des dépendances. Et puis les questions de malhonnêteté, de fraude, de cupidité, donc toutes ces affaires douteuses, fraude les uns envers les autres. On voit aussi que ce ne sont pas les champions du travail. Si vous lisez les deux épîtres aux Thessaloniciens, à plusieurs reprises, ils les encouragent à travailler. Il semble que chez les Grecs, le summum, c'était de ne pas travailler. Alors ça fait toujours rêver certains, mais la Bible ne prône pas de cette manière-là. Elle ne parle pas de cette manière-là et elle valorise le travail. Rappelons-nous quand même que les Thessaloniciens étaient des jeunes chrétiens. En l'espace de 3 sabbats, c'est-à-dire en 3 semaines, Paul a ouvert cette église. Ce qui veut dire que les responsables de cette église étaient des tout jeunes dans la foi. C'était vraiment une église inexpérimentée. Ils avaient peu de recul et on peut comprendre qu'il y a des choses à régler par la suite. Mais il y a un ton qui est solennel ici. Et il y a une insistance de l'apôtre Paul sur la sanctification. la nécessité de se séparer du péché, de s'en éloigner. C'est pourquoi ? Parce que Paul sait très bien que certaines victoires doivent être prises dès le départ. Quand on regarde des fois des jeunes convertis, on peut observer des fois deux aspects ou deux déséquilibres. Vous avez des fois des jeunes convertis qui sont excessifs et ils coupent tout, ils sabrent tout, tout devient péché. Et des fois ils vont trop loin. Et puis vous en avez d'autres, des fois il ne faut pas trop couper, on ne rompt pas avec certaines habitudes. Ça fait deux déséquilibres, mais j'ai remarqué qu'il y en a un qui est préférable à l'autre. Et des fois, il vaut mieux être excessif. Et après, on apprend à s'équilibrer. Parce que des fois, ceux qui sont trop là dès le départ, ça m'étonnerait qu'ils tiennent jusqu'au bout. Et je crois qu'avec ces Thessaloniciens, l'apôtre Paul veut leur dire, les réveille un petit peu, attention, il faut d'emblée être ferme avec le péché. Il ne faut pas lui laisser de prise, d'emprise, d'accès dans notre cœur. Je voudrais considérer avec vous les arguments que Paul utilise pour les convaincre, pour vraiment faire naître en eux le désir de marcher dans la sainteté. Mais ça doit être un désir dans notre cœur. On ne veut pas du péché. Alors des fois, on se fait avoir. Des fois, on sent qu'on n'est pas beau et que si le Seigneur apparaissait là, eh ben, on baisserait les yeux. Mais malgré tous ces échecs, des fois, parfois à répétition, on veut être ferme dans ce combat. On ne veut pas que le péché ait prise. Jésus nous a lavés par son sang et il nous a débarrassés de nos péchés. Comme ça nous a été rappelé, vendredi soir, le Seigneur ne voit plus nos péchés. Mais nous, on les voit encore. Et on a besoin de s'en défaire. Et on veut que dans notre condition, on veut que notre condition de tous les jours tende vers notre position que nous avons en Jésus-Christ. Alors, quelques arguments utilisés par l'apôtre Paul pour convaincre ces Thessaloniciens et pour nous convaincre aussi. Et le premier argument, c'est peut-être le plus fort, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés. Quand on parle d'appel, des fois on peut partir sur toutes sortes de choses. Il y a l'appel des fois à aller parcourir le monde, il y a l'appel des fois à faire ceci, à faire cela. Hein, certains des fois se réclament d'appels qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Alors on ne va pas rentrer là-dedans, mais je veux dire une chose, on est tous appelés à la sainteté. Ça a été lu dans le texte de tout à l'heure, hein. Et on est tous... l'appel au salut, c'est un appel à nous éloigner du péché. Jésus l'a fait. Et bien sûr, nous, on permet que dans notre vie, tous les jours, on s'en éloigne. Il est intéressant de noter que dans le discours de Paul, il commence par le « vous ». Mais quand il arrive à la sanctification, il met le « nous ». Et je n'ai pas ce matin envie de prêcher le « vous », hein, mais je prêche le « nous » parce que je me mets dedans. Et nous sommes tous appelés à nous éloigner du péché. On est tous embarqués dans ce combat, dans cette lutte au niveau des pensées, au niveau des désirs, au niveau des émotions, au niveau des paroles, au niveau du comportement, à tous les niveaux. Hein. Mais on est embarqués là-dedans et on veut vraiment veiller. L'apôtre Paul dit aussi, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est la volonté de Dieu. Quand on parle de volonté de Dieu, on arrive très vite sur la question du mariage avec les chrétiens. Je ne sais pas pourquoi. Mais très vite, on arrive sur ce terrain-là. Or, quand je lis 1 Corinthiens 7, il n'est pas trop question de volonté de Dieu. Je vois plutôt un appel à un choix responsable. Tu choisis de te marier, tu assumes ton choix. Tu choisis de rester seul, tu assumes ton choix. C'est plutôt le ton de l'apôtre Paul pour ceux qui ont 1 Corinthiens 7 en tête. Mais jamais il est question de volonté de Dieu, hein. Même si on cherche quand même la direction de Dieu dans ce domaine. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais dans le domaine de la sainteté, c'est clairement dit, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est important. Dans la volonté de Dieu, vous avez des constantes et des variantes. Un jour, un homme a reçu la pensée de Dieu de construire un bateau. Il s'appelait Noé. Et il a construit un bateau. Un autre a reçu la direction de Dieu de construire un temple. Il ne fallait pas qu'ils se croisent dans les mails. Hein. Il ne fallait pas que Salomon se mette à construire un bateau, parce que son bateau n'aurait jamais navigué. Et puis, il ne fallait pas que Noé se mette à construire un temple, parce que le temple, il aurait été noyé. Là, on est sur des variantes. Il peut y avoir dans notre vie, à un moment donné, des choses ponctuelles pour quelqu'un. Mais dans la volonté de Dieu, il y a des constantes. Et la sainteté de vie, c'est une constante. On l'observe dès le début, et jusqu'à maintenant, et encore après. Quelles que soient les dispensations, quelles que soient les périodes, à Abraham, avant la loi, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Marche devant ma face et sois intègre. Abraham, il avait juste à parcourir le pays, mais en même temps, il devait marcher dans la transparence et dans l'intégrité. Quand on regarde Moïse, eh bien sûr, sa responsabilité, c'est de ne pas pécher. Et à un moment donné, il va se rater, ça va lui coûter cher. Hein, parce qu'à un moment donné, il ne va pas sanctifier l'Éternel aux yeux du peuple. Et il va parler durement au peuple et frapper le rocher une deuxième fois. Il n'entrera pas dans la terre promise. On trouve que c'est excessivement dur. Mais rappelons-nous que la loi, elle ne peut pas nous introduire dans le territoire promis. Et Moïse est le symbole de la loi dans l'Ancien Testament. Mais on continue, David, c'est pareil. Et du temps des apôtres, c'est pareil. C'est une constante. Dieu veut, et nous appelle à nous éloigner du péché. Quelles que soient les époques, c'est un combat. Et ça doit être une détermination dans notre cœur. Ça doit être une priorité chaque matin. On ne veut pas que le péché domine sur nos vies. Chaque soir, on veut veiller. C'est vite fait, hein. On se prend dans les pensées qui vagabondent. Parfois, on regarde des trucs qu'on ne devrait pas. On se fait vite piéger. Et il nous faut veiller là-dessus. Le deuxième argument, c'est que la sanctification, s'éloigner du péché, s'appeler à Dieu. C'est écrit. Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Je le reformule comme ça dans l'esprit de Paul. Vous cherchez à plaire à Dieu, alors sanctifiez-vous. Refusez le péché. La sanctification et le désir de celle-ci, la disposition de cœur à marcher dans la sainteté, c'est une disposition qui est agréable à Dieu. Je peux choisir ce qui est agréable à Dieu. Vous savez, des fois, certains vont offrir des cadeaux. Ce n'est pas s'ils font plaisir aux autres, mais ils leur font plaisir. Et le principe du cadeau, c'est d'offrir un cadeau qui fait plaisir à celui qui le reçoit. Et à Dieu, ce n'est pas ce que je vais décider qui va lui être agréable. C'est ce qu'il déclare lui-même. Et la Bible me dit que la sainteté de vie lui est agréable. Et la disposition dans ce domaine. Et nous voulons chercher à lui plaire à lui avant tout. Un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Bien sûr, s'il est intelligent, il va chercher à plaire autour de lui. Il va chercher à plaire à son conjoint, à être agréable à ses enfants, à être agréable à ses voisins, dans son travail, à son patron. Enfin, il va chercher de tous ces côtés-là. Mais on sait, et je dirais d'abord, c'est pas toujours incompatible. Mais des fois, ça l'est. Des fois, c'est incompatible. C'est ce que Paul exprime dans Galates, chapitre 1, verset 10, quand il dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » L'apôtre Paul écrit dans un contexte où il parle de faux évangiles. Certains, des fois, pour faire passer leur évangile, vont l'alléger. Vous voyez, on va le rendre plus light. Et l'apôtre Paul dit non. Hein, c'est dans cette mentalité. Mais on sait très bien que nous, des fois, on peut se retrouver dans ce genre de conflit. Hein. Ou pour plaire à quelqu'un, on est devant un choix difficile. Un ami me demande de mentir pour l'arranger. Et qu'est-ce que je fais ? Je l'arrange ou je mens ? Ou je mens pas et je plais à Dieu ? Alors c'est facile à répondre. Bien sûr, on ment pas. Non, mais on sait comment c'est des fois. Hein, on sait, des fois, c'est plus sournois que ça. C'est plus habile que ça. Des fois, on pourrait... Ouais, la facture, elle est moins grosse. Mais est-ce que ça plaît à Dieu ? Et pourquoi elle est moins grosse aussi ? Parce qu'il n'y a pas la TVA ? Parce que la marchandise, elle est douteuse ? J'en sais rien, enfin. Vous voyez, ce qui est un petit prix n'est pas forcément la volonté de Dieu. Hein. Des fois, ils vont mieux payer plus cher et être dans le plan de Dieu. Hein. On est tous confrontés à ce genre de dilemme intérieur. Hein. J'ai qu'à creuser dans ma vie, des fois j'ai pas été fier des choix. Mais on veut faire le choix de plaire à Dieu avant tout. Même si pour cela on doit plaire à des on doit déplaire à des amis. Même si des fois, eh ben, on pourrait se faire virer par le patron parce que ça ne marche pas, ça rentre plat. Je crois que c'est un choix qui est important parce qu'on sait que plaire à Dieu, c'est notre objectif, c'est notre priorité. Alors des fois, je ne sais pas toujours ce qui plaît à Dieu, hein. Des fois, ce n'est pas entre le mal et le bien qu'on a le choix, c'est entre ce qui est le mieux et le meilleur, entre ce qui est bien et le meilleur. Des fois, c'est entre un moindre mal. Ce n'est pas toujours évident, mais rappelons-nous toujours que le désir de s'éloigner du péché, ça plaît à Dieu. Je suis toujours impressionnant comment Dieu il parle de Job devant Satan. T'as vu ? Tu l'as vu en bas, mon serviteur ? T'as vu comme il intègre ? Alors, ça peut empêcher qu'il soit éprouvé, hein. Mais je suis toujours étonné de la fierté de l'Éternel à propos de Job. Et il y avait un cœur qui était intègre, avec la connaissance qu'il avait, avec ce qu'il pouvait faire, avec la manière de vivre, la foi qu'il pouvait vivre. Mais je trouve ça remarquable. Un troisième argument. L'avènement de Jésus-Christ rend nécessaire notre sanctification. Le texte qui a été lu tout à l'heure sur l'épître de Paul à Pierre, hein, quand il est question de l'avènement, il dit « Combien votre piété, votre conduite doivent être sainte ?» Avec la perspective du retour de Jésus. Les Thessaloniciens, ils étaient manifestement très branchés retour de Jésus. Et rappellent des fois certains chrétiens évangéliques ont l'impression qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Et ils étaient presque dans le déséquilibre, un petit peu comme tous ces chrétiens, où dès qu'il y a un nouveau président, c'est l'Antichrist, un nouveau pape, c'est l'Antichrist. Hein, vous avez des fois des gens qui sont un petit peu comme ça. Vous avez un président qui lève le doigt et déjà il voit un signe là. Enfin, vous avez toutes sortes de trucs farfelus qui circulent, hein, des fois dans les milieux évangéliques. Et il me semble que les Thessaloniciens étaient un petit peu dans le déséquilibre. S'ils avaient eu Internet, ils y seraient bien dedans, à mon avis. Parce qu'on voit qu'il y avait toutes sortes de pseudo-inspirations, toutes sortes de prophètes. Ils étaient rentrés dans les choses de l'esprit. Mais malheureusement, il y en a un petit peu chacun qui disait la sienne. Ça partait un peu dans tous les sens. Et c'est pourquoi Paul, dans ses deux épîtres, il parle beaucoup sur l'avènement du Seigneur et sur la venue de l'Antichrist. Il place les choses. Parce que ils étaient friands, mais en même temps vulnérables. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que il semble que la perspective du retour de Jésus avait entraîné un peu une relâche. Finalement, c'était à quoi bon faire des progrès puisque Jésus revient ? Ça se tient comme raisonnement. À quoi bon veiller sur son cœur ou à vouloir se sanctifier puisqu'un jour on sera changé en un instant ? C'est vrai que quand on réfléchit comme ça, pourquoi donc s'embêter, hein, et pourquoi faire des efforts ? C'est un mauvais raisonnement, on le comprend. Parce que si je commence à me relâcher là, hein, ne sachant pas quel est le jour, je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Et on sait que plus on va arriver vers des temps, plus il faut être vigilant sur son cœur. On est un peu comme certaines personnes qui vont quitter leur appartement. Un locataire qui va quitter son appartement, il y a deux manières de faire, hein. Soit je m'en vais, celui qui vient après, il se débrouille. Soit je choisis de le rendre meilleur que je l'ai pris. Moi, je veux faire partie de cela. Hein, on veut faire ce choix-là. Et Paul associe souvent la nécessité de la sainteté de vie par rapport au retour de Jésus. Pourtant, en même temps, quand la Bible parle du retour de Jésus, elle nous invite. Il y a un mot qui revient constamment, c'est de veiller sur son cœur. Veiller que le péché n'ait pas de prise. Ça revient très souvent. Nous ne sommes pas sauvés par notre sanctification. Nous avons été sauvés parce qu'un jour on a cru au Seigneur Jésus. Et Jésus est venu dans notre cœur et dans notre vie. Mais le manque de sanctification, le refus de s'éloigner du péché peut nous éloigner de la course. Il peut nous faire quitter le chemin. Et ça, on n'a pas envie. Le quatrième argument, c'est, je vais le dire comme ça, leur progrès dans l'amour ne les dispensait pas de sanctification. Le verset 9 est remarquable, hein. Il est dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est assez remarquable, hein. Manifestement, il est dit un petit peu après, vous avez appris de Dieu. Pas besoin de leur dire. Ils avaient appris à s'aimer sans qu'on ait besoin de leur dire et de leur répéter. Aime ton prochain. Manifestement, ils avaient su développer l'accueil, les soins réciproques, le pardon mutuel, l'entraide, la solidarité, l'amitié fraternelle. Enfin, pour ça, c'est, moi, je mets l'amour fraternel, c'est un petit peu tout ça. Mais il y avait, je mets ça à côté de la sanctification. Elle va dire, ouais, vous avez appris de Dieu dans ce domaine, mais n'oubliez pas l'autre. Et je crois que c'est important. On a une tendance au déséquilibre dans ce domaine. Hein. C'est que des fois, au nom de l'amour, on est capable de tout tolérer et de tout perdre. Et la Bible prône cet équilibre entre l'amour et la sainteté. Et finalement, si je veux progresser dans l'amour, il me faut progresser. La Bible m'encourage à aimer dans la vérité et à être vrai dans l'amour. Jésus a concilié les deux. Je suis toujours impressionné par Jésus. Il est capable de manger avec les plus gros pécheurs. Il est près d'eux, il les aime, mais le péché n'a pas de prix sur lui. Nous, on se ferait avoir. Je ne sais pas comment je gérerais ça. Mais ça m'interpelle toujours ce maximum chez Jésus entre la plénitude de son amour et le maximum de sa sainteté. On ne sera pas Jésus à ce niveau-là. Mais on veut aller dans ces deux domaines et on ne voudrait pas surtout aller seul amour, un amour qui tolère tout, parce que ça, c'est la définition que le monde donne. Et nous, on veut trouver l'équilibre entre un amour vrai et une piété et une sainteté qui soit vraie. Parce que je ne veux pas aussi être animé d'une sainteté. On est raide comme tout, on est incapable d'humanité, ou je veux dire, on est incapable de grâce. Et on a déjà vu ça des fois. Au nom de la sainteté, c'est d'une rigidité absolue et on est incapable de compassion. Et là, il y a un équilibre qui n'est pas facile. Hein. Et on peut être aussi dans un déséquilibre d'un côté ou dans l'autre. Et nous, on veut c'est pas au milieu là. Il faut développer les deux. L'amour vrai et la sainteté de vie. Un autre argument de l'apôtre Paul. Le don du Saint-Esprit ne me dispense pas de sainteté. Au verset 8, il écrit ceci. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Il anticipe au cas où il y a des réactions. Mais Dieu qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. Et manifestement, cette déclaration nous ramène vers l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est souvent, l'association est souvent faite, même si selon les épîtres, les termes n'ont pas toujours tout à fait le même sens. Les Thessaloniciens, ils n'avaient pas eu de problème pour entrer dans la vie de l'Esprit. D'emblée, baptême dans le Saint-Esprit, prophétie, en 3 semaines, ils étaient tous rentrés dedans. Au point justement où il fallait un petit peu gérer, parce que quand on rentre dans ces choses-là, on a des fois besoin un petit peu de recul et d'expérience. Et j'imagine que ça prophétisait un petit peu dans tous les sens, des fois. Et il a fallu équilibrer. D'où ce qu'il écrit à la fin. N'éteignez pas l'esprit. Examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon. Il essaye un petit peu de les aider à équilibrer l'attitude avec les choses de l'esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, comme les dons de l'esprit, sont des grâces. Et les Thessaloniciens, ils ne se sont pas posés de questions. Hein. Ils n'ont pas dit, oulala, il faut attendre, je me suis donné, je vais attendre 1 an pour être baptisé en Saint-Esprit, puis 2 ans, non. En 3 semaines, ils sont rentrés dans tout. Hein. Et ça, c'est bien. Et là, ils nous donnent une belle leçon. Hein. Il ne faut pas attendre. Hein. Il faut les grâces, on les prend le plus vite possible. Et quand on est sauvé, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut rentrer. Et la vie de l'Esprit, elle nous tend les bras. Le Seigneur veut nous y faire entrer. Mais attention, ce n'est pas une dispense pour m'éloigner du péché. Et il y a le don de l'esprit, il y a, vous le savez, le fruit de l'esprit. Ça va ensemble. Et Paul veut leur faire comprendre que si je veux que les dons de l'esprit, mais la sainteté, ça ne m'intéresse pas, c'est pour les autres. Non, non. Il y aura problème à un moment donné. À un moment donné, ça va coincer. Il y aura barrage. Il y aura barrage parce que ce n'est pas compatible. On a vu des fois, dans les milieux pentecôtistes, on a vu des fois des gens qui ont exercé les dons. Et Dieu a fait même des miracles extraordinaires. Mais à un moment donné, il y a eu un stop. Et un péché qui est apparu, qui existait déjà depuis un certain temps. Comme un train qui avance et qui finit par s'arrêter tôt ou tard. Mais on a eu des fois des situations comme ça. On veut rentrer dans les choses de l'esprit. Et on veut surtout pas être un frein. On a besoin des dons de l'esprit. Mais on a besoin de veiller encore plus sur son cœur. Et c'est Jacques qui écrit, vous savez que Jacques ne mâche pas ses mots. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez, là, il y a un équilibre. à trouver. La Bible dit que nous sommes des vases, que des vases de terre. Et des vases qui se fendillent avec le temps, qui se ternissent avec le temps. On n'échappe pas à ça. Mais à l'intérieur, c'est quelque chose de glorieux. Dieu a mis un trésor. Et dans les trésors qu'il a déposés, il y a une huile abondante. Mais la Bible nous invite à veiller sur l'huile qui est à l'intérieur. Il est dit que les moucherons peuvent faire fermenter l'huile du parfumeur. On connaît ce texte. Et quand il y a des moucherons qui s'installent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enlever. On veut apprendre à veiller sur notre cœur, justement pour garder et entretenir ce dépôt que Dieu nous a donné. Un sixième argument sur lequel je ne m'étendrai pas, mais il est présent et il faut que je le cite. L'absence de sainteté, de sanctification, entraîne inévitablement un jugement du péché. Le Seigneur tire vengeance de ces choses. Alors, quand il est dit tire vengeance, ça veut dire que le Seigneur juge. Il exerce tôt ou tard un jugement. Je voudrais juste préciser deux choses à ce niveau-là. C'est que quand on parle de jugement, déjà voyons dans le sens des conséquences. Le péché a toujours des conséquences. Et si je choisis de faire le mal, si je sais me livrer, je récolterai. Retenons que des fois, quand la Bible parle de jugement, on récolte ce que l'on sème. Et le péché, il aura inévitablement des conséquences. Et cette loi, on la trouve tout au long de la Bible. Elle est rappelée dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est dit que si finalement on n'observe pas ces commandements, il est dit comme cela, que ça, il y aura sur la 3e et la 4e génération. Certains ont cru bon de dire, oh là, mais si j'ai un problème, c'est que je remonte dans la génération précédente. Ce n'est pas dit dans ce but-là. C'est dit plus pour eux. Je dois veiller sur mon cœur. Parce que si je ne veille pas, il y aura une incidence sur ceux qui me suivront. En termes d'exemplarité. C'est dans ce sens-là, c'est dans ce courant-là qu'il faut prendre ce verset-là. Et parce qu'il y a cette loi, on récolte ce que l'on sème. Alors ça marche en bien, ça marche en mal, mais ça marche en bien. Bien sûr, Dieu est capable de modifier cela. Mais quand même, cette loi, elle est inscrite dans la nature et elle est inscrite sur le plan spirituel. Et je voudrais dire aussi ceci, c'est que le refus de sanctification obligera Dieu à me châtier. Et je ne m'étends pas dessus parce que ça nécessiterait de réfléchir, mais la Bible fait la différence entre la condamnation et le châtiment. Le châtiment, c'est-à-dire un jugement exercé sur les chrétiens dans le but de les ramener sur la bonne voie. Et Dieu, des fois, par notre manière de vivre ou par notre refus d'écouter, on oblige Dieu de temps en temps à un petit peu chercher à nous ramener avec des épreuves ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les épreuves ont ce but-là, mais ça peut rentrer dedans. Mais là, je touche un sujet compliqué parce qu'il y a, beaucoup de paramètres. Un septième argument, la sainteté de vie, elle interpellera ceux du dehors. C'est dit comme ça. Alors l'expression « ceux du dehors », elle est toujours choquante pour qui lit pour la première fois. Parce qu'il y a ceux du dehors avec Dieu, il y a ceux du dedans. Si on parlait comme ça, mais la Bible parle de cette manière-là. C'est un fait indéniable. Dieu fait une différence entre les siens, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui lui appartiennent, qui se sont engagés avec Jésus-Christ, et ceux qui ne le sont pas. D'une manière parlée un petit peu... Et par rapport, si dans le texte que nous l'avons lu, c'est écrit, par rapport à ceux du dehors, au verset 12, et il y a cette idée que, finalement, en refusant de vivre d'une certaine manière, on sera critiqué. Si vous refusez de mentir, vous serez critiqué. Vous n'échapperez pas à ça. Ne pensez pas à plaire à tout le monde. Vous n'échapperez pas à certaines critiques. Mais en même temps, ce que nous dit ce texte, c'est qu'il y a des gens qui seront interpellés par notre conduite. Il y a des gens qui verront des fois nos choix courageux, qui verront qu'on se positionnera, même si on est un petit peu seul contre tous dans certains domaines, et ça aura un impact. Et il y a des choses sur lesquelles on a besoin. On est un petit peu à contre-courant, des fois on est un petit peu comme des saumons. Mais il vaut mieux être un saumon qu'autre chose. Mais on interpellera, on manifestera une certaine différence. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas être des fois un peu stupide. Parce que Mais sur des choses, on se positionne, on vit d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a des choses, des fois, qui peuvent surprendre, on est en décalage. Nous, on donne une importance au mariage entre un homme et une femme. C'est-à-dire, dans la société, ça pas. Mais pour nous, on sait que ce sont des choses sur lesquelles on tient. Et on y tient absolument. C'est ce que Pierre écrit à plusieurs reprises. Hein. Je vous lis quelques textes. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Un texte assez fort de l'apôtre Pierre. Et puis un dernier argument. J'ai dit tout à l'heure que sur le premier, c'est le plus fort, et celui-là, pour moi, il me motive et il m'encourage dans ce combat contre le péché. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il est dit, à nouveau, l'apôtre Paul termine son épître. Il remet une couche, hein, au cas où ils n'ont pas compris. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, corps, âme et esprit. Hein, rien qui échappe au tableau. Il remet une couche. Juste avant, il a dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Pour ceux qui n'ont pas compris. Enfin, je pense qu'on les avait tous compris. Mais en parlant comme ça, il vous met un poil, l'apôtre Paul. Mais vous avez vu ce qu'il rajoute ? Ah, je l'aime beaucoup, ce verset. Le jour où je me suis arrêté dessus, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alors, ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir sur ma chaise longue et je dis, Seigneur, tu fais quand tu veux. Hein. Mais ça veut dire qu'on est sur un partenariat dans ce domaine. Et que dans ce domaine de lutte contre le péché, je le fais avec lui. Parce que Dieu ne le fera pas sans moi. Et il va des fois attendre la bonne disposition de mon cœur. Il va mettre d'abord le désir, et ensuite le vouloir et ensuite le faire. Mais s'il n'y a pas le vouloir, il n'y aura pas le faire derrière. Des fois, il va travailler de cette manière-là. Et puis, mais en même temps, il va le faire avec moi. Il ne va pas le faire sans moi. Si je dis, mais lui, fais quand tu veux. Et puis, des fois, on peut être sur le terrain, c'est la sanctification à la force du poignet. Hein. Ça, c'est fatigant aussi. Quand on a ciblé, on veut, puis on n'y arrive pas. Et quand c'est le Seigneur qui dit, allez, on y va, des fois, on triomphe de la mauvaise habitude. C'est avec lui. Alors bien sûr, c'est lui le fera avec nous. La victoire sur le péché, c'est pas sans nous qu'il fera. Bien sûr, lui, il a tout accompli. On ne perd pas de vue qu'à ses yeux, on a une position. Christ nous a lavé de tout péché. Mais on veut aussi que notre caractère il soit comme celui de Jésus. On veut que nos réactions elles soient comme Jésus en aurait. On veut que dans nos émotions, il y ait de la pureté. J'ai envie d'être triste pour ce qui vaut le coup. J'ai envie d'être heureux pour ce qui vaut le coup d'être heureux. On peut comme ça réfléchir. À tous les niveaux, on veut glorifier le Seigneur. Je termine simplement en disant ceci. Il n'y a pas de progrès possible et durable dans la vie chrétienne s'il n'y a pas de détermination dans la sanctification. Je sais qu'aujourd'hui, on voudrait des fois montrer une espèce de voie chrétienne où on peut passer tout. Non. On n'y échappe pas à cela. La sanctification, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. C'est la volonté de Dieu. C'est notre appel. Et Christ nous a introduits sur ce chemin. Et il va nous aider à avancer sur ce terrain-là. Rappelons-nous, c'est lui qu'il fait. Il nous donne le vouloir et le faire. Que le Seigneur nous aide sur ce combat. Et ce combat, on le mène jusqu'au bout. Hein. Même quand on a 80, 85 ans, je ne sais pas quel âge a le plus âgé au milieu de nous, mais on doit lutter encore éveillé sur son cœur, parce que peut-être on ne lutte pas toujours avec les mêmes choses. Mais enfin, le péché, il est toujours là jusqu'au bout. Quand on sera avec le Seigneur, on en sera débarrassé. Pour l'instant, on va apprendre à veiller sur notre cœur. Que le Seigneur nous aide. Mais retenons cette pensée, on le fait avec lui. On le fait avec lui et on ne doit pas baisser la garde. On ne doit pas démissionner dans ce combat-là. Même si mon frère, ma sœur, tu t'es fait piéger, tu es tombé, tu dis, Seigneur, tu me relèves et tu remènes le combat. Et on continue d'aller de l'avant. Le péché, on ne veut pas qu'il ait prise sur nos vies. On prie le Seigneur.